La guerre des Gaules, écrit par Jules César et traduit par Désiré Nisard en 1865. Le texte de la lecture d'aujourd'hui figure dans le Wikisource du 18 mars 2009. Troisième et dernière partie du livre 5. 40. Cicéron écrit aussitôt à César et promet de grandes récompenses à ceux qui lui porteront ses lettres. Tous les chemins étant gardés, les courriers ne peuvent passer. La nuit, on élève jusqu'à 120 tours avec le bois destiné à retrancher le camp, ce qui se fait avec une célérité incroyable, et on achève les retranchements. Le lendemain, les ennemis, en bien plus grand nombre, viennent attaquer le camp et comblent le fossé. La résistance de notre côté est aussi vive que la veille. Les jours suivants se passent de même. Le travail se continue sans relâche pendant la nuit. Les malades, les blessés ne peuvent prendre aucun repos. On prépare chaque nuit tout ce qui est nécessaire pour la défense du lendemain. On façonne quantité de pieux et de traits de remparts. De nouveaux étages sont ajoutés autour. Des clés sont tressées, des mantelets construits. Cicéron lui-même, quoique d'une très faible santé, ne se donnait aucun repos, même pendant la nuit, au point que les soldats, par d'unanimes instances, le forçaient à se ménager. 41. Alors, les chefs des Nerviens et les principaux de cette nation, qui avaient quelque accès auprès de Cicéron et des rapports d'amitié avec lui, lui font savoir qu'ils désirent l'entretenir. Il répète, dans cette entrevue, ce qu'Ambiorix avait dit à Titurius, que toute la Gaule était en armes, que les Germains avaient passé le Rhin, que les quartiers de César et de ses lieutenants étaient attaqués. Ils annoncent en outre la mort de Sabinus. Ils montrent Ambiorix pour faire foi de leurs paroles. Ce serait, disent-ils, une illusion que d'attendre le moindre secours de légions qui désespèrent de leurs propres affaires. Ils n'ont au reste aucune intention hostile à l'égard de Cicéron et du peuple romain, et ne leur demandent que de quitter leur quartier d'hiver et de ne pas se faire une habitude de ces campements. Ils peuvent en toute sûreté sortir de leur quartier et se retirer sans crainte par tous les chemins qu'ils voudront. Cicéron ne leur répondit qu'un mot. Le peuple romain n'est point dans l'usage d'accepter aucune condition d'un ennemi armé. S'ils veulent mettre bas les armes, ils enverront, par son entremise, des députés à César. Il espère qu'ils obtiendront de sa justice ce qu'ils lui demanderont. Siège du camp. 42. Déchus de cet espoir, les Nerviens entourent les quartiers d'un rempart de 11 pieds et d'un fossé de 15. Ils avaient appris de nous cet art dans les campagnes précédentes et se le faisaient enseigner par quelques prisonniers faits sur notre armée. Mais, faute des instruments de fer propres à cet usage, ils étaient réduits à couper le gazon avec leurs épées et à porter la terre dans leurs mains ou dans leurs sais. Du reste, on peut juger par cet ouvrage de leur nombre prodigieux, car en moins de 3 heures, ils achevèrent un retranchement de 15 000 pas de circuit. Les jours suivants, ils se mirent à élever des tours à la hauteur de notre rempart, à préparer et à faire des faux et des tortues, d'après les instructions des mêmes prisonniers. 43. Le 7e jour du siège, un très grand vent s'étant élevé, ils lancèrent avec la fronde des boulets d'argile rougis au feu et des dards enflammés sur les buttes des soldats, couvertes en paille à la manière gauloise. Elles eurent bientôt pris feu et la violence du vent porte à la flamme sur tout le camp. Les ennemis, poussant alors de grands cris, comme s'ils eussent déjà obtenu et remporté la victoire, firent avancer leurs tours et leurs tortues et montèrent à l'escalade. Mais tels furent le courage et la présence d'esprit des soldats que, de toutes parts brûlés par la flamme, en butte à une multitude innombrable de traits, sachant bien que tout leur bagage et toute leur fortune étaient la proie de l'incendie, non seulement aucun d'eux ne quitta le rempart pour se sauver, mais en quelque sorte ne tourna même la tête. Ils ne songeaient tous en ce moment qu'à se battre avec la plus grande intrépidité. Ce fut pour nous une bien rude journée, mais elle eut cependant pour résultat qu'un très grand nombre d'ennemis y furent blessés et tués. Entassés au pied du rempart, les derniers fermaient la retraite aux autres. L'incendie s'étant un peu apaisé, et les barbares ayant roulé et établi une tour près du rempart, les centurions de la troisième cohorte, postés en cet endroit, s'en éloignèrent, emmenèrent toutes leurs troupes, et, appelant les ennemis, les invitèrent du geste et de la voix à entrer s'ils voulaient. Aucun d'eux n'osa s'avancer. Alors des pierres lancées de toutes parts mirent le désordre parmi eux et l'on brûla leur tour. Les centurions Pullo et Vorenus. 44. Il y avait dans cette légion deux centurions, hommes du plus grand courage et qui approchaient déjà des premiers grades, T. Pullo et L. Vorenus. Il existait entre eux une continuelle rivalité, et chaque année ils se disputaient leur rang avec une ardeur qui dégénérait en haine. Comme on se battait opiniâtrement près des remparts, « Qu'attends-tu, Vorenus ?» dit Pullo. « Quelle plus belle occasion de prouver ton courage ! Voici le jour qui devra décider entre nous !» À ces mots, il sort des retranchements et se précipite vers le plus épais de la mêlée. Vorenus ne peut alors se contenir et, craignant l'opinion générale, il le suit de près. Arrivé près de l'ennemi, Pullo lance son javelot et perce un de ceux qui s'avançaient en foule sur lui. Il le blesse à mort. Aussitôt, ils couvrent le cadavre de leur bouclier, dirigent tous leurs traits contre Pullo et lui coupent la retraite. Son bouclier est traversé par un dard qui s'enfonce jusque dans le baudrier. Le même coup détourne le fourreau et arrête sa main droite qui cherche à tirer l'épée. Ainsi embarrassé, les ennemis l'enveloppent. Vorenus, son rival, accourt le défendre contre ce danger. Les barbares se tournent aussitôt contre lui, laissant Pullo qu'il croit hors de combat. Vorenus, l'épée à la main, se défend au milieu d'eux, en tue un et commence à faire reculer les autres. Mais, emporté par son ardeur, il rencontre un creux et tombe. Pullo vient à son tour pour le dégager, et tous deux, sans blessure, après avoir tué plusieurs ennemis, rentrent au camp couverts de gloire. Ainsi, dans ce combat où ils luttèrent, la fortune balança leur succès. Chacun d'eux défendit et sauva son rival, et l'on ne peut décider qui l'avait emporté en courage. César au secours de Cicéron. 45. Plus le siège devenait rude et difficile à soutenir, surtout avec le peu de défenseurs auxquels nous réduisait chaque jour le grand nombre des blessés, plus Cicéron dépêchait vers César de courriers porteurs de ses lettres. La plupart étaient arrêtés et cruellement mis à mort à la vue de nos soldats. Dans le camp était un Nervien, nommé Vertico, d'une naissance distinguée, qui, dès le commencement du siège, s'était rendu près de Cicéron et lui avait engagé sa foi. Il détermine un de ses esclaves par l'espoir de la liberté et par de grandes récompenses, a porté une lettre à César. L'esclave la porte, attaché à son javelot, et Gaulois lui-même, il se mêle aux Gaulois sans inspirer de défiance et arrive auprès de César, qui l'instruit des dangers de Cicéron et de la Légion. 46. César, ayant reçu cette lettre vers la 11e heure du jour, envoie aussitôt un courrier au questeur M. Crassus, dont les quartiers étaient chez les Bellovaques, à 25 000 pas de distance. Il lui ordonne de partir au milieu de la nuit avec sa légion et de venir le joindre en toute hâte. Crassus part avec le courrier. Un autre est envoyé au lieutenant C. Fabius pour qu'il conduise sa légion sur les terres des Atrébates, qu'il savait avoir à traverser lui-même. Il écrit à Labienus de se rendre, s'il le peut, sans compromettre les intérêts de la République, dans le pays des Nerviens avec sa légion. Il ne croit pas devoir attendre le reste de l'armée, qui était un peu plus éloignée, et rassemble environ 400 cavaliers des quartiers voisins. 47. Vers la troisième heure, César fut averti par ses coureurs de l'arrivée de Crassus, et le même jour, il avança de 20 000 pas. Il laissa Crassus à Samarobriva et lui donna une légion pour garder les bagages de l'armée, les otages des cités, les registres et tout le grain qu'on avait rassemblé dans cette ville pour le service de l'hiver. Fabius, selon l'ordre qu'il avait reçu, ne tarda pas à partir avec sa légion et joignit l'armée sur la route. Labienus, instruit de la mort de Sabinus et du massacre des cohortes, était entouré de toutes les forces des Trévires. Craignant s'il effectuait un départ qui ressemblerait à une fuite de ne pouvoir résister à l'impétuosité d'ennemis qu'une récente victoire devait rendre plus audacieux, il exposa, dans sa réponse à César, le danger de tirer la légion de ses quartiers. Il lui détailla ce qui s'était passé chez les Éburons et lui apprit que toutes les forces des Trévires, cavalerie et infanterie, étaient réunies à 3000 pas de son camp. 48. César approuva le parti qu'il prenait. Au lieu de 3 légions sur lesquelles il comptait, il fut réduit à 2. Mais il savait que le salut commun ne dépendait que de sa diligence. Il se rend à marche forcée sur les terres des Nerviens. Là, il apprend des prisonniers ce qui se passe au camp de Cicéron et son extrême danger. Alors, il décide à force de récompense un cavalier gaulois à lui porter une lettre. Elle était écrite en caractère grec afin que les ennemis, s'ils l'interceptaient, ne puissent connaître nos projets. Dans le cas où il ne pourrait parvenir jusqu'à Cicéron, il lui recommande d'attacher la lettre à la courroie de son javelot et de la lancer dans les retranchements du camp. César écrivait que, parti avec les légions, il allait bientôt arriver et exhortait Cicéron à conserver tout son courage. Dans la crainte du péril et selon ses instructions, le Gaulois lance son javelot. Il se fiche par hasard dans une tour. Il reste 2 jours sans être aperçu et n'est découvert que le 3e par un soldat qui prend la lettre et la porte à Cicéron. La lecture qui en est faite en présence des soldats excite parmi eux d'unanimes transports de joie. Déjà, on voyait la fumée des incendies et il ne put rester aucun doute sur l'approche des légions. Les Nerviens se tournent contre César et sont battus. 49. Les Gaulois, avertis par leurs coureurs, lèvent le siège et marchent contre César avec toutes leurs troupes. Elles se composaient d'environ 60 000 hommes. Cicéron, ainsi dégagé, demande à son tour à ce même Vertico, dont nous avons parlé plus haut, un Gaulois, pour porter une lettre à César et recommande au porteur la prudence et la célérité. Il annonçait par cette lettre que les ennemis l'avaient quitté et tournaient toutes leurs forces contre César. Celui-ci, l'ayant reçu vers le milieu de la nuit, en fait part aux siens et les anime pour le combat. Le lendemain, au point du jour, il lève son camp et il a fait à peine 4000 pas qu'il aperçoit une multitude d'ennemis au-delà d'une grande vallée traversée par un ruisseau. Il eût été très dangereux de combattre des troupes si nombreuses dans un lieu défavorable. D'ailleurs, il voyait Cicéron délivrer des barbares qui l'assiégeaient. Il pouvait ralentir sa marche, et il s'arrêta dans le poste le plus avantageux possible pour s'y retrancher dans son camp. Quoique ce camp eût peu d'étendue par lui-même, puisqu'il contenait à peine 7000 hommes sans aucun bagage, il le resserre encore dans le moindre espace possible afin d'inspirer aux ennemis le plus grand mépris. En même temps, il envoie par tous ses éclaireurs reconnaître l'endroit le plus commode pour traverser le vallon. 50. Dans cette journée, qui se passa en escarmouche de cavalerie près du ruisseau, chacun resta dans ses positions. Les Gaulois, parce qu'ils attendaient l'arrivée de troupes plus nombreuses. César, parce qu'en feignant de craindre, il espérait attirer l'ennemi près de ses retranchements et le combattre en deçà du vallon, à la tête de son camp. Dans le cas contraire, il voulait reconnaître assez les chemins pour traverser avec moins de péril le vallon et le ruisseau. Dès le point du jour, la cavalerie ennemie s'approcha du camp et engagea le combat avec la nôtre. Aussitôt, César ordonne à ses cavaliers de céder et de rester dans le camp. Il ordonne, en même temps, de donner partout plus de hauteur au retranchement, de boucher les portes et, en exécutant ses travaux, de courir çà et là dans la plus grande confusion avec tous les signes de l'effroi. 51. Attirés par cette feinte, les troupes ennemies passent le ravin et se rangent en bataille dans un lieu désavantageux. Voyant même que les nôtres laissaient le rempart dégarni, les barbares s'en approchent de plus près, y lancent des javelots de toutes parts et font publier autour de nos retranchements, par la voix des héros, que tout Gaulois ou Romain qui voudra passer de leur côté, avant la troisième heure, peut le faire sans danger, qu'après ce temps, il ne le pourra plus. Enfin, ils conçurent pour nous un tel mépris que, croyant trouver trop de difficultés à forcer nos portes fermées, pour la forme, par une simple couche de gazon, ils se mirent les uns à détruire le rempart à l'aide seulement de leurs mains, les autres à combler le fossé. Alors César, faisant une sortie par toutes les portes à la fois, suivi de la cavalerie, met bientôt les ennemis en fuite, sans que personne ose s'arrêter pour combattre. On en tua un grand nombre, et tous jetèrent leurs armes. César au camp de Cicéron. 52. Craignant de s'engager trop avant dans une poursuite que les bois et les marais rendaient difficile, et comme d'ailleurs c'était pour les ennemis un assez rude échec que d'avoir été chassé de leur position, César, sans avoir perdu un seul homme, joignit Cicéron le même jour. Il ne vit pas sans étonnement les tours, les tortues et les retranchements qu'avaient élevés les barbares. Ayant passé en revue la légion, à peine un dixième des soldats se trouva sans blessure. Témoignage certain du courage qu'ils avaient déployé au milieu du péril. Il donna à Cicéron et à la Légion les éloges qui leur étaient dus, distinguant par leur nom les centurions et les tribuns, des soldats dont l'intrépidité lui avait été signalée par leur chef. Il apprit des prisonniers les détails de la défaite de Sabinus et de Cotta. Le lendemain, il convoque une assemblée, rappelle ce qui s'est passé, console et encourage les soldats, attribue à l'imprudence et à la témérité du lieutenant l'échec qu'il avait reçu, les exhorte à le supporter avec d'autant plus de résignation que, grâce à leur courage et à la protection des dieux immortels, ce revers avait déjà été réparé et n'avait pas laissé longtemps leur joie aux ennemis, ni aux Romains leur douleur. Agitation générale. César reste en Gaule. 53. Cependant, le bruit de la victoire de César fut porté à Labienus, chez les Rèmes, avec une si incroyable vitesse que, bien qu'éloigné de 60 000 pas des quartiers de Cicéron, où César n'était arrivé qu'après la 9e heure du jour, des acclamations s'élevèrent aux portes du camp avant minuit, et que déjà, par leurs cris de joie, les Rèmes félicitaient Labienus de cette victoire. Cette nouvelle, parvenue au Trévir, détermina Indutio Maros, qui comptait attaquer le lendemain le camp de Labienus, à s'enfuir pendant la nuit et à ramener toutes ses troupes dans son pays. César renvoya Fabius dans ses quartiers avec sa légion et résolut d'hiverner lui-même aux environs de Samarobriva avec 3 légions dont il forma 3 quartiers. Les grands mouvements qui avaient eu lieu dans la Gaule le déterminèrent à rester tout l'hiver près de l'armée. En effet, sur le bruit de la mort funeste de Sabinus, presque tous les peuples de la Gaule se disposaient à prendre les armes, envoyaient partout des messagers et des députations, examinaient le parti qu'il leur restait à prendre, sur quel point commenceraient les hostilités, et tenaient des assemblées nocturnes dans les lieux écartés. Il ne se passa presque pas un seul jour de cet hiver que César n'eut des motifs d'inquiétude et ne reçut quelques avis des réunions et des mouvements des Gaulois. Ainsi, le lieutenant L. Roscius, qui commandait la 13e Légion, lui fit savoir qu'un grand nombre de troupes gauloises des nations que l'on appelle armoricaines s'étaient réunies pour l'attaquer et n'étaient plus qu'à 8 000 pas de ses quartiers. Lorsqu'à la nouvelle de la victoire de César, elles s'étaient retirées si précipitamment que leur départ ressembla à une fuite. 54. César, après avoir fait venir près de lui les principaux de chaque cité, effraya les uns en leur déclarant qu'il était instruit de leur dessein, fit aux autres des exhortations et contint, dans le devoir, une grande partie de la Gaule. Cependant, les Sénons, nation très puissante et jouissant d'un grand crédit parmi les Gaulois, avaient, en plein conseil, résolu la mort de Cavarinos que César leur avait donné pour roi. Ils descendaient des anciens chefs du pays et Moritasgos, son frère, y régnait à l'arrivée de César en Gaule. Cavarinos, qui, dans le pressentiment de son sort, s'était enfui, avait été poursuivi jusque sur leurs frontières et chassé du trône et de la cité. Ils avaient député vers César pour justifier leur conduite et en avaient reçu l'ordre de lui envoyer tous leurs sénateurs, ordre auquel ils n'obéirent pas. Les barbares étaient si fiers d'avoir trouvé parmi eux un peuple qui eût osé le premier faire la guerre aux Romains, et cela avait produit un tel changement dans l'opinion générale, qu'à l'exception des Éduains et des Rèmes, que César considéra toujours singulièrement, les uns pour leur ancienne et constante fidélité au peuple romain, les autres pour leur service récent dans cette guerre, il n'y eut presque pas une cité qui ne nous fût suspecte. Et je ne sais, sans parler des autres motifs, s'il faut s'étonner qu'une nation qui l'emportait sur toutes les autres, par le mérite militaire, et qui se voyait déchu de sa haute renommée, eût pu sans une vive douleur supporter le joug du peuple romain. Révolte des Trévires. 55. Les Trévires et Indutio Maros ne cessèrent, durant tout l'hiver, d'envoyer des députés au-delà du Rhin, de solliciter les peuples à prendre les armes, de promettre des subsides, disant qu'une grande partie de notre armée ayant été massacrée, il ne nous en restait que de faibles débris. Cependant, ils ne purent déterminer à passer le Rhin aucun des peuples germains, doublement avertis par la guerre d'Ariovistes et le sort des Tanctères, de ne plus tenter la fortune. Déchu de cet espoir, Indutio Maros n'en rassembla pas moins des troupes, les exerça, leva de la cavalerie chez les peuples voisins et attira à lui de toutes les parties de la Gaule, par l'appât de grandes récompenses, les bannis et les condamnés. Il s'était déjà acquis par ses moyens un tel crédit dans la Gaule que de tous côtés lui venaient des députations, des villes et des particuliers pour solliciter sa protection et son amitié. 56. Dès qu'il vit qu'on se ralliait à lui, que d'un côté les Sénons et les Carnutes étaient engagés par le souvenir de leurs crimes, que de l'autre les Nerviens et les Atuatiques se préparaient à la guerre, et qu'une foule de volontaires se réunirait à lui sitôt qu'il aurait franchi les limites de son territoire, il convoqua un conseil armé selon l'usage des Gaulois au commencement d'une guerre. Là, d'après la loi générale, tous les jeunes gens doivent se rendre en armes. Celui d'entre eux qui arrive le dernier est mis à mort en présence de la multitude et au milieu des tourments. Dans cette assemblée, il déclara ennemi de la patrie Saint-Gétorix, son gendre, chef du parti opposé, et resté fidèle à César, auquel il s'était attaché, comme nous l'avons dit plus haut. La vente de ses biens fut publiée. Il annonça ensuite dans le conseil qu'appelés par les Sénons, les Carnutes et plusieurs autres peuples de la Gaule, il se rendrait chez eux par le territoire des Rèmes, qu'il le ravagerait et qu'avant tout, il attaquerait le camp de Labienus. Et il donna ses ordres pour l'exécution. Labienus bat et tue leur chef, Indutio Maros. 57. Labienus, qui occupait une position fortifiée par la nature et par l'art, ne craignait aucun danger ni pour lui ni pour la légion et songeait à ne pas laisser échapper l'occasion d'un coup d'éclat. Instruit par Saint-Gétorix et ses proches du discours qu'Indutio Maros avait tenu dans l'assemblée, il envoie des messagers aux cités voisines, leur demande à toutes des cavaliers et indique le jour de leur réunion. Cependant, presque chaque jour, Indutio Maros faisait voltiger sa cavalerie autour du camp, soit pour en reconnaître la situation, soit pour entrer en pourparler ou nous inspirer de l'effroi. Le plus souvent, les cavaliers lançaient des traits dans nos retranchements. Labienus retenait ses troupes dans le camp et ne négligeait rien pour accroître l'opinion que les ennemis avaient de sa frayeur. 58. Tandis qu'Indutio Maros s'approchait de notre camp, chaque jour avec plus de mépris, Labienus fit entrer dans une seule nuit les cavaliers de toutes les cités voisines qu'il leur avait demandé et retint tous les siens au camp, par une garde si vigilante que ce renfort resta entièrement ignoré et qu'aucun avis ne put être transmis aux Trévires. Cependant, Indutio Maros s'approche comme de coutume et passe une grande partie de la journée près de notre camp. Ses cavaliers lancent des traits et par des invectives nous provoquent au combat. Comme on ne leur répondit point, sur le soir, ils se retirèrent dispersés et sans ordre. Tout à coup, Labienus fait sortir par les deux portes du camp toute sa cavalerie. Il ordonne expressément, dès que les ennemis effrayés seront en fuite, ce qui arriva comme il l'avait prévu, qu'on s'attache à Indutiomaros seul et qu'on ne blesse personne avant que ce chef ne soit mis à mort. Il ne voulait pas que le temps donné à la poursuite des autres lui permît de s'échapper. Il promet de grandes récompenses à ceux qui l'auront tué et fait soutenir la cavalerie par les cohortes. La fortune seconde ses desseins. Poursuivi seul par tous et atteint au gué même de la rivière, Indutiomaros est tué et sa tête apportée au camp. Les cavaliers, au retour, attaquent et tuent ce qu'ils rencontrent d'ennemis. À la nouvelle de cette déroute, les troupes réunies des Éburons et des Nerviens se retirent. Et César, après cet événement, vit la Gaule un peu plus tranquille. Fin du livre 5.